Écoutez la sauce à peur. J'ai
entendu ça aux infos.
Ouais. 9h41 donc, l'instant M de retour dans vos oreilles.
Merci d'être avec nous ce soir.
C'est ça qu'on travaille en direct.
Ma télé, mon miroir, c'est l'éternelle question. Quel reflet la lucarne renvoie-t-elle à la société qui la regarde ? On s'interroge chaque fois qu'une émission politique met un élu face aux Français. Oui, mais quel Français ? Quel Français pour représenter les Français ? Le documentaire aussi s'y est frotté de grands noms. De grands films qui ont marqué l'histoire de la télévision, Carlin, L'Aîné, Tavernier, Otzenberger, Depardon, bientôt. Comment filmer les Français? Comment les faire parler? Comment faire le portrait d'hommes et femmes qui ne sont qu'eux-mêmes? Comment ne pas trahir leur singularité en voulant leur donner valeur d'universalité? Bonjour Laurent Delahousse.
Bonjour.
Les Français, série documentaire 8 fois 52 minutes, démarre dimanche soir sur France 2.
L'Instant M. Tous les médias sont sur France Inter avec Sonia De Villers.
Voilà, un œil sur l'actu à lire ce matin, je vous le recommande, dans le supplément télé de l'Obs. Ce long papier sur le bureau de la censure militaire en Israël, une mystérieuse institution qui valide avant publication les articles de journaux et qui officie carrément dans les régies des trois chaînes généralistes du pays. Diffuser une information non tamponnée par les autorités revient pour un média israélien à risquer la fermeture administrative. Je vous conseille également l'enquête de Charles Anderlin, publiée par Le Monde Diplomatique le mois dernier, Israël, le temps de l'Inquisition, ou comment le gouvernement Netanyahou bâillonne littéralement tous les relais d'influence qui ne s'alignent pas sur sa politique et prennent leur distance avec la colonisation. Anderlin parle de chasse aux sorcières. Voilà, Charles Anderlin, que vous avez longtemps côtoyé, Laurent Delahousse, à la rédac de France 2. Alors, France Télévisions, jeudi sous haute tension, manifestement, vos confrères et vos consoeurs, Laurent Delahousse, sont réunis aujourd'hui en Assemblée Générale. Votre directeur de l'information, Michel Field, risque une motion de défiance, en cause des méthodes et des propos qualifiés de brutaux, une fusion des équipes de France 2 et de France 3, difficile à mettre en œuvre, la naissance d'une chaîne d'info, vous lui parlez l'Élysée, et qui doit avoir le jour pile pour les présidentielles, et puis enfin, le nom de cette chaîne, France Info, je cite, « Il est difficile de ne pas y voir une fusion déguisée, prélude au mariage avec Radio France », écrit la Société des journalistes de France Télévisions en s'adressant directement à Audrey Azoulay dans Libération. Serez-vous la ministre qui recréera l'ORTF ? Évidemment, hein, derrière ce sigle ORTF, il y a le souvenir d'une période où radio et télé publique étaient sous la coupe du pouvoir politique. Laurent Delahousse, y a-t-il de quoi s'inquiéter quand on est journaliste à la rédac de France 2, de France 3 ou de France TV Info Numérique en ce moment ?
Non, quand ça fait 10 ans qu'on vit au sein de cette rédaction, on a la preuve qu'elle est libre, indépendante, dynamique, en colère parfois, souvent de manière légitime, inquiète, comme vous le dites, par les changements, comme tous les Français, par une évolution d'une entreprise lourde. France Télévisions, c'est une synthèse d'un peu ce que sont les Français. On est parfois, nous, dans nos médias, nostalgiques d'une époque, d'un temps qui n'existe plus, d'une télévision qu'on ne peut plus faire de la même façon. Et en même temps, on est les garants d'une histoire. Et cette histoire, cette rédaction, elle tente toujours de la préserver, de la faire vivre, en créant, en inventant, et en parfois exprimant leur colère.
Mais vous la sentez menacée, cette histoire, aujourd'hui ? Menacée par le pouvoir politique, par les intrusions, par...
Elle a été fragilisée depuis... Moi, ça fait 10 ans, je peux parler de 3 présidences de France Télévisions, de 4 patrons de l'information, qui ont eu des choix à faire, des changements à initier. Et on est aujourd'hui dans une période, comme vous le dites, avec des fusions de rédactions qui ont chacun leur histoire aussi, ont chacun leur ADN. Et c'est compliqué, c'est difficile, effectivement, aujourd'hui, de demander à France 2 et à France 3 de travailler... comme ça, très très vite, ça se fait petit à petit, mais c'est quand même très vite, très rapide. On nous a toujours demandé d'être, nous à France 2, meilleurs que France 3. C'est normal. On a toujours travaillé dans une dynamique d'avoir la meilleure information à 20h et de ne pas la confier au 19-20. Donc, vous pouvez pas demander à une rédaction de se mouvoir et de changer ses codes en si peu de temps. Et c'est le cas en ce moment. Donc, il y a des interrogations, il y a des transformations à mettre en place et on est un petit peu au milieu de ce pont. ce pont entre un monde ancien dont on doit faire le deuil. Et on est en train de le faire, et on le fait, on l'a entamé avec Thierry Tuilier, on continue, on poursuit,
qui était le précédent directeur
de l'information, et puis on est en train d'ouvrir une nouvelle ère, avec différents objectifs, et la chaîne d'information, quand vous dites tout à l'heure qu'elle serait une chaîne dédiée à promouvoir la campagne présidentielle de François Hollande, c'est inenvisageable, et c'est impossible. Avec cette rédaction-là, c'est impossible. Cette rédaction se réunit aujourd'hui, dans une AG, c'est pas la première. Ça sera probablement pas la dernière. Elle a raison de s'exprimer. Elle a raison. Je suis aujourd'hui à l'écoute de ce qu'elle dit. J'en suis non pas le porte-parole, parce que je ne suis ni syndiqué. Je ne suis pas dans cette logique-là. Je suis à l'écoute de leurs revendications. J'ai la chance d'incarner leur travail depuis une dizaine d'années. C'est pour moi un privilège. Et souvent un honneur, parce que je trouve que cette rédaction a une maturité, a une densité et un sens de l'actualité, de l'information et de l'indépendance qui sont très forts. Et je continuerai
et alors,
à tenter de le faire.
Mes nouvelles saisons l'année prochaine, vous êtes où? Vous faites quoi dans ce grand chambardement de France 2 l'année prochaine?
Écoutez, aujourd'hui je suis à France 2, je présente le journal Le Week-end, je m'occupe de 13h15 et d'un nouveau magazine qui s'appelle Les Français, en tout cas d'une nouvelle série documentaire qui s'appelle Les Français. Après on verra, chaque chose en son temps.
On va y venir, vos JT du Week-end. Laurent Delahousse demeure un labo d'écriture, c'est pour ça qu'ils sont intéressants. On y essaye sans cesse de nouveaux formats pour raconter l'actualité. Le dernier en date, Verbatim, mélange d'archives, d'analyse politique et de fiction.
Je sais que je vais laisser mon nom à cette loi.
Moi, personnellement, Myriam, je serais ravie que tu laisses ton nom à une belle loi de gauche.
Voilà, réunion à huis clos, le bureau politique à Solferino du PS, les mots de Martine Aubry et de Myriam El Khomri, interprétés par des comédiennes à l'anglo-saxonne, Laurent Delahousse, à l'anglo-saxonne, parce qu'en France, quand on fait de la fiction politique, c'est pas sur des choses qui se sont passées la semaine précédente, c'est sur des dossiers froids et archi-froids.
Ça a toujours été la culture en France, on a fait de la fiction, souvent très figée, très historique, la plus contemporaine était La Conquête, je crois, qui avait un compte à rebours assez proche finalement de ce qui s'était passé.
Et qui racontait la prise de pouvoir de Nicolas Sarkozy.
Là, en l'occurrence, aujourd'hui, on avait envie, avec Jean-Michel Carpentier et les équipes, d'écrire une autre page de cette fiction. C'est-à-dire la mêler avec du documentaire et d'être en prise avec ce que vous avez l'habitude de lire dans Le Point, dans L'Express, dans les news magazines. On a souvent
les off,
les fameux entre guillemets ou même pas entre guillemets, où Emmanuel Macron a dit ça à Manuel Valls. Ah oui, effectivement, Nicolas Sarkozy s'est entretenu avec Bruno Le Maire. Oui, ah bon, mais on n'y était pas.
Et avalanche de livres, de journalistes politiques pour raconter ces off.
Alors on avait envie, nous, effectivement, de vous raconter de manière non pas instantanée, parce qu'on est souvent avec un petit décalage de quelques semaines mais on avait envie d'apporter aux téléspectateurs la possibilité d'être cette petite souris dans le bureau de François Hollande, cette petite souris au moment du Conseil national du Parti socialiste.
Alors, petite souris, carrément dans un échange entre François Hollande et Jean-Pierre Jouyet, où tous les deux discutent du meilleur moment pour que François Hollande se révèle et s'annonce à la présidentielle.
Oui, avec des propos qui sont probablement à la quasi-virgule près, les propos qui ont été tenus dans ce bureau.
Et pourtant, il n'y avait pas de témoins dans ce bureau.
Non, il n'y avait pas de témoins.
Mais c'était du off, et c'est du off rapporté par les journalistes.
Je vous confirme qu'on ne met pas les micros dans les bureaux de François Hollande. De Jean-Pierre Jouyet, mais effectivement on essaie de faire le travail que font les journalistes de la presse écrite quand ils font ce genre de papier.
Alors à ceci près que curieusement ça sonne parfois un peu faux, moi je trouve
que vous êtes en train de dire que les acteurs jouent pas bien?
Moyennement. Je trouve que c'est pas toujours réussi ces séquences
moi,
de fiction.
D'accord.
Je pense que ça nécessite en réalité plus de moyens que ce que vous en avez pour le faire. Et que du coup, c'est dialogué peut-être de manière un peu trop raide. Parce qu'on sent bien que vous avez voulu respecter à la virgule près.
Parce que la culture du texte que l'on a, effectivement, elle n'est pas écrite comme pour une fiction. Et à partir du moment où vous avez une fiction entre les mains, vous avez la chance d'avoir un scénario et des dialoguistes qui vont vous adapter. Là,
exactement.
On va dire que parfois, Manuel Valls, François Hollande, Emmanuel Macron ou Nicolas Sarkozy n'ont pas le talent des auteurs de fiction. Donc effectivement, ces comédiens sont obligés parfois de sous-jouer et de jouer avec effectivement des mots qui ne sont pas les leurs. En tout cas, qui ne sont pas ceux qu'on rêverait d'avoir dans une fiction. C'est ça aussi le travail journalistique et c'est ça peut-être effectivement la limite de l'exercice. C'est qu'effectivement ce texte est parfois étroit pour ces comédiens qui ont d'abord l'objectif de ne pas singer les personnages. Et ça c'est aussi compliqué parce que souvent dans la fiction, le premier réflexe des journalistes qui font un commentaire sur une fiction politique c'est « Ah c'est dingue, qu'est-ce qui ne ressemble pas à Chirac ?»« Ah c'est dingue, qu'est-ce qui ressemble à Chirac ?» Moi je me souviens effectivement des précédents précédent, et c'était, ah oui, caricature, ah ben là, il ne caricature pas, ah ben il ne lui ressemble pas. Et je pense que sincèrement, la fiction telle qu'elle est aujourd'hui en France, elle a besoin de faire exploser les codes. Nous, on a fait un choix d'être audacieux et créatif. Qui dit audacieux et créatif dit souvent dérangeant, et ce qui dérange suscite le commentaire. On est très heureux que ça suscite le commentaire, parce qu'on a toujours aimé être créatif.
Exploser à la fois les codes de la fiction et de l'info, parce que ça n'a échappé à personne, que c'est juste après un JT.
Et ça reviendra l'année prochaine.
Je voudrais une note d'accordéon.
L'instant M, c'est aussi en vidéo sur franceinter.fr.
Oh là là, attends.
Le projet de tendre un miroir aux Français, de les faire se regarder à la télé, ça a l'air simple et humble sur le papier, c'est diablement complexe et démesuré. Laurent Delahousse.
Bonsoir, il a été le premier homme à marcher sur la Lune. Neil Armstrong est devenu en quelques instants l'un des hommes les plus célèbres au monde. Et nous verrons tout à l'heure comment un jour aussi historique a fait basculer le destin de cet homme devenu un mythe.
Voilà, alors pendant très longtemps, et vous continuez d'ailleurs avec Un jour un destin, vous avez raconté des destins exceptionnels, des destins hors normes. Et on se demande d'ailleurs si le succès de cette émission, c'est pas dans une société où l'ascenseur social est en panne, précisément, où justement les Français peuvent, d'une certaine manière, se sentir montés socialement par procuration en regardant cette émission. Là, vous faites tout l'inverse, pas de procuration, c'est eux que vous allez leur montrer à partir de dimanche soir à la télévision.
Un besoin de retourner juste à la source, d'écouter les Français, parce qu'on vit une période, comme vous l'avez dit, on parlait de France Télévisions à l'instant, on est dans une période où les Français sont, on va dire, désorientés. Je pense que c'est le mot, je pense que Marcel Gaucher l'a employé, et c'est celui-là qui est le plus adéquat. Ils sont désorientés parce que perdus, en perte de repères, en perte d'un monde dont ils doivent faire le deuil, effectivement, et d'un monde nouveau où ils ne savent que des inconnus. Ils ne connaissent que des inconnus. Donc effectivement, j'avais envie de repartir à la source, de les écouter, de les regarder, de les observer. Comme vous le disiez tout à l'heure, c'est pas nouveau, mais c'est peut-être nouveau dans ce qu'ils ont à exprimer aujourd'hui.
Alors justement, qu'est-ce qu'ils ont à exprimer et qu'est-ce que vous avez choisi de retenir de leurs paroles ? Je voudrais qu'on écoute deux hommes qui vivent et qui dorment dans la rue.
Ouais, bah heureusement qu'on se marre.
Ah bah oui.
Si on rigolait pas, on serait peut-être des gens méchants, on va savoir.
Non, peut-être pas méchants, mais peut-être, ouais,
ah, aigri. T'es fou, on serait aigri.
Aigri, ouais.
10 destins de Français sans destin, contrairement à ces personnalités que vous faites briller. 10 destins de Français sans destin, ils sont formidables, vos Français, Laurent Delahousse. Alors du coup, je vous pose d'emblée la question, où sont les gens qui vomissent les migrants? Où sont les gens qui vomissent l'école et la politique? Où sont les gens qui vomissent les homosexuels, les juifs, les musulmans? Où sont les gens qui vomissent les Français parce qu'ils ne s'y sentent pas représentés?
D'abord, je pense qu'ils ont tous un destin, tous les gens qu'on a suivis. Ils ont une histoire incroyable. Ce sont des anonymes, mais ce sont en même temps des gens qui ont chacun une histoire intense, forte. Les histoires simples sont aussi les plus belles. Qui est finalement Jean-Claude Brialy? Qui est Yves Mourouzi? Qui est... toutes ces histoires, je les ai racontées avec un miroir.
Ça, d'accord.
Ils n'ont qu'une histoire finalement qui ressemble
après,
à la nôtre.
Après, il fallait
avec
les choisir,
histoires.
Ces 10 Français.
Après, il fallait les choisir dans le sens où... Ou d'abord, c'est une plongée à la fois subjective, forcément, dit français. Chaque photographie est subjective, mais en même temps, elle a une part d'objectivité. Et ces 10 Français ont une part d'objectivité dans ce qu'ils racontent et ce qu'ils disent de nous. Ils nous racontent ce qu'ils sont dans leur vie intime, ils nous racontent ce qu'ils sont dans leur vie professionnelle, et ils nous racontent ce qu'ils voudraient ou ce qu'ils rêvent d'être en tant que Français. Est-ce qu'ils se sentent encore Français? Qu'est-ce que ça veut dire pour eux? Qu'est-ce qu'ils aimeraient
être
dans cette France-là?
Vous avez choisi des gens formidables. Des gens tout simplement formidables, c'est-à-dire il n'y a rien d'exceptionnel dans leur vie et dans leur destin.
Non,
vous avez choisi des gens sympathiques.
Moi, on vient d'entendre Stéphane et Pascal. J'ai été 10 fois ému en salle de montage par leurs propos. Je pense qu'à la fois, ils nous font sourire, ils ont une langue qui est très proche de celle d'Audiard au moment des attentats. Ils arrivent à nous faire rire, ils arrivent à s'interroger sur le fait de savoir s'ils vont pouvoir faire la manche dans les semaines à venir parce qu'il n'y a plus personne dans le métro. Ils arrivent à se poser les questions que nous nous posons avec leurs mots à
et
eux
le
et avec le regard à eux.
On continue de rigoler. Heureusement qu'on continue de rigoler, sauf que Laurent Delahousse, vous animez un JT et vous savez qu'il y a beaucoup de gens que ça ne fait plus rire du tout.
Non.
Vous filmez un agriculteur qui est dans une colère et dans une douleur noire et en même temps qui reste un type humain, généreux, sympathique, un type formidable, de braves gens, sans aucun mépris au sens propre du terme, de braves gens. Et en même temps, on sait très bien que cette France aujourd'hui, cette France, elle vomit la haine et l'intolérance et la discrimination et la peur de l'autre en ce moment.
Je ne crois pas. Je ne suis pas d'accord avec vous.
Eh ben alors, c'est un vrai acte de conviction que vous faites.
Eh ben peut-être.
Ouais.
Je pense que les Français sont très éloignés de cette haine-là. Très éloignés. Ils sont beaucoup plus généreux que ça. Ils ont en eux des peurs. Des peurs légitimes, des peurs de voir leurs enfants traverser la rue, d'aller à l'école, des peurs d'être dans une entreprise et de se poser la question de savoir pourquoi une entreprise qui marche aujourd'hui, qui fait des bénéfices, peut fermer. Ils sont dans des peurs de se dire j'ai plus de travail, mais qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que la banque va me donner un crédit? Et toutes ces peurs, elles sont aujourd'hui, parfois, incarnées par une personnalité dans la vie politique et qui progresse. Mais ça ne veut pas dire que les Français sont xénophobes, ça ne veut pas dire que les Français ont la haine de l'autre. Au contraire, je crois qu'ils sont dans une logique aujourd'hui d'essayer de trouver une voie. Qu'est-ce qu'il y a en commun aujourd'hui entre les Nuits debout et la France d'Emmanuel Macron? La même chose, ils veulent une autre société, ils veulent vivre différemment, ils veulent un autre projet économique, ils veulent un autre projet politique. Et pourtant, ils n'ont rien à voir. Et pourtant, ils appartiennent à la même société, à la même identité qui est la nôtre, qui est celle d'effectivement de se poser les questions, de savoir qu'est-ce que nous avons encore en commun. Et aujourd'hui, ce que nous avons en commun, c'est beaucoup de questions et assez peu de réponses. Oui, c'est vrai que je suis en colère contre les personnalités politiques, même intellectuelles, et même parfois contre nous, médias, qui avons à un moment donné sous-estimé l'attente et la demande des Français de les entendre, de les écouter.
Alors justement, on les entend, on les écoute. Quand vous dites qu'est-ce qu'ils ont en commun, c'est-à-dire qu'on les voit vivre. On les voit vivre avec leur entourage, qu'ils soient médecins, éboueurs, sans domicile fixe, on les a entendus, profs, chefs d'entreprise, coiffeurs. On les voit vivre et on ne vous entend pas. Laurent Delahousse.
Mais on n'a pas besoin de m'entendre.
Victoire.
Ben, c'est une victoire pour moi. J'ai réussi au bout de 10 ans.
Fin du commentaire.
Voilà.
Fin de la voix off. Ben victoire. Oui. Mais si vous y arrivez, il y a beaucoup de gens qui vont pouvoir y arriver en télévision.
Non, mais c'est vrai que
C'est-à-dire qu'on les entend,
mais
eux.
Je remercie effectivement l'unité documentaire, que ce soit Fabrice Puchaud, Vincent Mellé aujourd'hui, Catherine Alvarez, qui m'ont permis de ne pas avoir ni une présence antenne, ni finalement une voix. On m'entend très peu à la fin avec des débriefs d'interview, mais on ne me voit pas. C'était un choix. C'est-à-dire que la place aujourd'hui dans ce documentaire, elle est aux Français, à leurs paroles. Il n'y a pas de commentaires, il n'y a pas à décrypter, il n'y a pas tout le temps à raconter. Il faut que parfois, notre métier, il est plus protéiforme. On a parfois un besoin, et quand je fais Al-Qaïda, de Al-Qaïda à Daesh, on a besoin de donner du sens, de décrypter, d'être extrêmement pédagogique. On a aussi besoin d'entendre les Français, de ne pas tronquer leur histoire, de ne pas finalement façonner leurs propos. On a besoin de les entendre.
Alors,
et de les voir.
En même temps,
y a des choix.
On n'est pas naïf. Ouais. Vous faites des choix, et vous faites des choix très forts, à la fois par le casting. Quand je disais le jour d'une émission politique, quand on se demande avec qui, quel type de Français, quel panel, quelle représentation des Français un président doit-il dialoguer à la télévision, vous choisissez certains Français, vous faites des choix aussi dans leurs propos, vous les montez, vous les cadrez.
Les premiers téléspectateurs qui m'apportent lundi, ce sont ces 10 personnages. Savoir ce qu'ils vont penser de la retranscription de leurs propos et de ce qu'ils sont. J'espère qu'une chose, qu'ils se sentiront eux-mêmes, qu'ils retrouveront ce qu'ils ont voulu exprimer. Je pense que ça sera le cas. Je l'espère, mais j'espère aussi, surtout, que tous les téléspectateurs qui vont vouloir regarder cette émission et qui pourront la regarder sur Plus après, s'ils ne regardent pas dimanche soir, se retrouveront en miroir et retrouveront là-dedans quelque chose qui est très loin de la haine, qui est plutôt un projet commun que nous avons à aujourd'hui avancer vers quelque chose qui est effectivement une forme d'inconnu. Mais les gens qui s'interrogent aujourd'hui Place de la République et la société des incubateurs et les 3000 jeunes chefs d'entreprise qui sont aujourd'hui dans la création d'emplois, qui ont une volonté de bouger les lignes et qui ont envie de rester en France pour créer ces entreprises, ils sont et ils appartiennent au même pays. Il y a peut-être quelque chose encore à faire ensemble.
Les Français, ça démarre dimanche soir en deuxième partie de soirée, les deux premiers épisodes, et puis ça continue tous les dimanches.